Radio Campus Lille, 19h.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le 258e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Alors ce soir, ben, comme il y a deux semaines, Alexandre est toujours en vacances, donc forcément je fais une nouvelle émission tout seul. Donc désolé pour le bazar que ça va être, notamment pour la gestion par rapport à la musique, hein, faire la console et la parlotte en même temps, c'est quand même relativement compliqué. Au programme du coup aujourd'hui, ben, comme d'habitude, on va parler beaucoup des diverses actualités des deux semaines écoulées. On va faire un petit peu de technique, le tout avec un peu de musique libre entre les deux. Et on va donc commencer par les actualités. On va commencer un petit peu, alors, un peu de tout. On va commencer par de l'internet et la vie privée. On va commencer par du classique, du gentil. J'ai une petite... Alors, c'est le principe des brèves, hein, c'est des actualités extrêmement courtes, mais il y en a une que j'ai vue passer, j'avoue que... Quand j'ai lu ça, j'ai été un peu surpris, j'ai cru presque à une blague. C'est tellement une... Sauf que c'est vrai, c'est devenu une blague au point que ben, des gens se sont amusés à faire des rapports de bugs auprès notamment du projet KDE pour rajouter la fonctionnalité, pour avoir la parité en fonctionnalité avec Windows. Puisque sous Windows, il existe un raccourci clavier, CTRL majuscule ALT Windows L. Alors c'est un raccourci clavier à 5 touches, mais en fait c'est parce que sur certains des claviers Microsoft, il y a une touche magique qui fait l'équivalent de 4 de ces touches-là. Et donc quand on fait ce raccourci clavier-là sous Windows, pouf, ça ouvre LinkedIn. J'avoue que voir une telle intégration, c'est pas énorme, juste un raccourci clavier comme ça, mais voir un site web proposé comme ça sous Windows, ça m'a un petit peu surpris. Et j'ai vraiment cru à une blague au début, mais non, c'est bien vrai. C'est parce que y a une Microsoft, je ne sais plus quels sont les liens de LinkedIn. Je crois que LinkedIn s'est devenu une filiale de Microsoft, quelque chose comme ça. Et donc, bah, on va en faire la promotion au point que, bah, écoutez, on va mettre un raccourci clavier par défaut. Hein, voilà. C'est normal, c'est Microsoft. J'avoue qu'en termes de. Alors, abus de position dominante, oui et non, mais surtout en termes d'intégration au système, je trouve ça légèrement abusif quand même de leur part. Puisque ça veut dire qu'un concurrent n'a pas l'avantage d'être accessible directement par une touche sous Windows, quoi. Alors là, c'est 5 sur le raccourci que j'ai donné, mais sur certains claviers Microsoft, du coup, c'est avec juste une combinaison de deux touches pour accéder à LinkedIn. Voilà, je trouve ça un petit peu étrange de leur part. Autre actualité internet et vie privée, le PDG de DuckDuckGo, un moteur de recherche alors propriétaire hein, comme la plupart des moteurs de recherche, mais qui vante en tout cas son respect de la vie privée. Le PDG de DuckDuckGo affirme que ben, aujourd'hui, en fait, il est très compliqué de basculer de Google à un autre moteur de recherche. Alors c'est ce qui a été affirmé dans une cour fédérale. La semaine dernière aux États-Unis donc en disant bah non il y a trop d'étapes, c'est trop compliqué. Alors beaucoup de gens vont s'en moquer en disant mais non il suffit dans Firefox ou dans Chrome, on va dans les paramètres, on clique sur moteur de recherche, on a le choix et voilà, ça prend quelques secondes, etc. La question n'est pas là en fait, il y a trop d'étapes. Déjà quand on parle notamment de tout ce qui est mobile, oui, il y a beaucoup plus d'étapes que juste ça. Là, la procédure que j'ai donnée, elle est valable pour un navigateur web d'ordinateur de bureau. Un navigateur mobile, des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il peut y en avoir à plusieurs endroits. Ça peut être intégré aussi dans certaines applications. Ça peut être intégré aussi avec d'autres services qui vont directement renvoyer à Google plutôt que de renvoyer à un moteur de recherche choisi d'un navigateur, etc. Donc, oui, en fait, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ce que ça ne devrait être de changer le moteur de recherche. Je suis assez d'accord avec cette opinion. Et il faudrait que dans les navigateurs web, lorsqu'on installe le navigateur web, en tout cas lorsqu'on ouvre un nouveau profil dans le navigateur web pour la première fois, il faudrait que le navigateur demande quel moteur de recherche vous voulez utiliser, plutôt que de choisir, en fonction du contrat signé entre le navigateur web et le moteur de recherche, de choisir pour vous un moteur de recherche. Donc je rappelle que Mozilla est financé largement par un accord avec Google, pour que Google soit par défaut. C'est un accord en centaines de millions de dollars. Apple a un accord similaire pour que Google soit par défaut sur Safari. Alors, en tout cas, les derniers échos que j'ai vus de cet accord, c'était des échos d'il y a 2-3 ans, mais je crois qu'il est encore en vigueur, etc., etc. Il faudrait que, comme on a eu à une époque le ballot screen qui permettait de choisir entre différents navigateurs web sous Windows, il faudrait qu'on ait quelque chose similaire dans les navigateurs web directement. Une autre actualité Internet, du coup, on va parler, plutôt vie privée, celle-là, on va parler de la CNIL britannique. On tapera sur les Britanniques après, donc là, pour l'instant, tant qu'on a du gentil avec eux, on va en profiter. Les Britanniques, donc la CNIL britannique, a décidé d'enquêter sur les pratiques des applications destinées au suivi des cycles menstruels. Parce que, étonnamment, les utilisatrices s'inquiètent de ce qui peut être fait de leurs données avec ces applications. Et effectivement, il y a des vrais risques. On n'est même pas sur de la donnée. Enfin, comment dire, on est sur de la donnée privée, mais au-delà, on est sur de la donnée de santé. Alors, je sais qu'en France, il y a des réglementations très spécifiques sur ça. Je ne sais pas si ces applications en France existent et se plient à ces obligations-là. Et accessoirement, il y a un vrai danger aussi, c'est que les applications en question, si elles ne sont pas payantes, enfin, si elles sont gratuites, ça veut dire qu'elles sont financées autrement. La question étant, comment sont-elles financées ? Et le problème, c'est que si elles ne sont pas financées par l'utilisateur, ça veut dire que c'est les données qui sont revendues pour faire de la publicité. Et du coup, il y a un problème. Donc, la CNIL va enquêter sur l'utilisation qui en est faite. À suivre. On vous tiendra informé du coup de quand on aura des réponses là-dessus, parce que effectivement c'est un vrai sujet ce genre d'application. Alors une autre nouvelle, alors je l'ai incluse mais c'est juste que ça m'a fait un petit peu rire. Nous avons en France des magnifiques organismes. Donc, au sein de nos parlements, nous avons des commissions mixtes, des commissions parlementaires mixtes. Et donc, nous avons la Commission supérieure du numérique et des postes, qui comprend donc des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et des personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'Économie et des Finances. Donc, cette commission travaille sur tout ce qui concerne notamment le numérique et les communications de manière générale. Et ils ont fait une découverte sensationnelle. Il n'y a pas de souveraineté numérique sans maîtrise de nos données. Donc je pense qu'ils sont peut-être tombés sur une vieille émission à nous d'il y a peut-être 10 ans, parce qu'on parlait déjà de ces problèmes-là il y a 10 ans, où ils ont juste branché un ou deux neurones, parce que c'est ce que tout le monde dit. Il y a un vrai problème, pas qu'en France, en Europe, c'est qu'on a finalement assez peu de grandes entreprises de traitement des données, qui traitent des données en tout cas, qui soient européennes. La plupart des gros opérateurs de données, je ne parle pas du stockage lui-même, parce qu'on a quelques entreprises, on a des OVH, des Online, des Scaleway, Herzner et d'autres qui ont des serveurs et donc qui stockent des données. Mais les opérateurs de données, c'est les entreprises qui traitent les données. Là, on va partir sur des services plus spécialisés. On va tomber sur des Google, on va tomber sur certains services au sein de Microsoft et d'Azure, ce genre de choses. Il y a très peu d'entreprises européennes là-dessus parce que ça n'a jamais été considéré comme important. Ça n'a jamais été considéré comme ayant finalement une vraie valeur. J'ai envie de dire ce que les États-Unis ont assez vite compris, malheureusement, surtout pour la valeur des données en termes d'intelligence économique, et surtout la guerre froide, c'était une bonne raison d'essayer de récupérer autant de données possible, et puis les bonnes pratiques, autant les continuer, autant que ça devienne des traditions. Donc effectivement, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de souveraineté numérique, c'est un vrai problème, et c'est pour ça que du coup, petit rappel, n'hésitez pas à essayer de reprendre le contrôle de vos données, juste en ne dépendant pas ou en dépendant le moins possible de services extérieurs, en particulier les services d'entreprises qui sont sous des juridictions qui ne seront pas nécessairement en votre faveur. On va rester le plus poli possible avec les États-Unis. Donc, la commission, alors, c'est une commission, voilà, ils font des rapports, ils font des études et tout. C'est mignon, hein, mais du coup, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas ce qui va en sortir, parce que bon, voilà, c'est... Oui, donc il y a des risques par rapport à la démocratie, etc. Ils ont fait un ensemble de recommandations. Donc ils disent, oui, il faut identifier les données sensibles et il faut que ce soit hébergé en France, etc. Mais finalement, voilà, ils s'inquiètent de l'hébergement. Ils veulent, oui, il faut que les données soient hébergées en France. Hein, c'est important, en France. Enfin, ou en tout cas, dans un cloud souverain. Sauf que... Ouais, il passe encore à côté du truc. C'est Google, enfin, allez, oui, on va dire Google. Google pourrait très bien certifier souverain son cloud, une instance de son cloud en France, et stocker les données dedans, et voilà, hein, et en tout, la souveraineté numérique, elle ne sera pas plus là qu'avant, puisque l'intelligence par rapport aux données, la valeur ajoutée, elle ne sera pas en France, elle sera aux États-Unis. Ils n'ont pas fini, hein. Il y a encore un peu de travail de leur côté. Une autre, allez, on va passer de l'autre côté de la Manche pour l'instant. Ouais. On va revenir en France après. Le Royaume-Uni a adopté ce qui est considéré comme le projet de loi européen le plus critiqué de tous les temps en matière de numérique. C'est un record. Là, je pense que côté français... On le prend assez mal, hein, le fait d'être doublé sur ce domaine, parce qu'on a quand même eu des magnifiques projets, genre la Hadopi, on a fait très fort quand même. On avait mis la barre assez haute en termes d'auto-humiliation. Mais voilà, le Royaume-Uni a réussi à faire encore plus loin. On parlera un peu après de ce que nous, on va faire du coup pour essayer de lutter. Hein, évidemment, on ne va pas se laisser faire en France. Et donc, le Parlement britannique a adopté un projet de loi alors qui vise à légaliser des dispositions qui ont été, on en a parlé il y a deux semaines, qui ont été reconnues comme techniquement impossibles. Alors, on sait que vous pouvez pas le faire, mais on va quand même vous demander de le faire. Vous savez, le jour où vous arriverez à faire l'impossible, vous devrez le faire, d'accord ? J'ai pas compris le concept pour l'instant encore. Hein, voilà, écoutez, on voudrait que 1 plus 1 égale 3. Alors, on sait que pour l'instant, c'est pas possible, mais le jour où vous trouvez la solution pour que 1 plus 1 égale 3... Eh ben, vous devrez faire que 1 plus 1 égale 3. Hein. J'ai pas compris. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans tout ce projet ? Alors, il y a plein de trucs. Il y a des obligations, notamment de suppression rapide de contenu. Alors, il y a des trucs qui sont tout à fait légitimes. Hein. De suppression de contenu incitant au suicide ou à l'automutilation. Mesures de contrôle de l'âge des utilisateurs, publier des rapports réguliers sur les différentes actions réalisées, faciliter des signalements de contenu, etc, etc, etc. Mais dans l'eau, du coup, qu'est-ce qui pose problème ? Mesures supplémentaires de contrôle de l'âge. En gros, hein, que les sites pornographiques contrôlent l'âge des usagers. Le problème, c'est que ce n'est pas techniquement possible aujourd'hui, ou alors c'est au détriment de la vie privée, voire de la sécurité des personnes. Donc, gros problème. Et c'est reconnu comme « Ah non, il n'y a pas de solution pour l'instant. Hein, » la France tombe dans le même travers, mais la France dit « Mais si, il y a des solutions. » Ils le savent que c'est pas possible, mais c'est pas très grave. Ils veulent également que soit analysé le contenu des communications, y compris les communications privées, donc les messageries instantanées et autres, et y compris celles qui sont chiffrées de bout en bout. Donc, alors ce qu'on appelle chiffrement de bout en bout, le principe théorique, on pourra en reparler à l'occasion, le principe c'est que, mettons, vous parlez avec Roger, voilà. Votre téléphone, enfin votre appareil et l'appareil de Roger décident entre eux d'une clé, alors chacun envoie à l'autre la clé avec laquelle chiffrer et garde secrète la clé avec laquelle déchiffrer le message, et donc les messages que vous échangez ne peuvent être compris que par vous et votre interlocuteur et personne d'autre. C'est le principe du chiffrement de bout en bout. C'est chiffré, lorsque vous envoyez un message, c'est chiffré sur votre machine à destination de la machine de Roger, et quand Roger envoie un message, il est chiffré sur sa machine à destination de votre machine. C'est le principe du chiffrement de bout en bout, et mathématiquement, normalement, c'est conçu pour que on ne puisse pas le casser. Alors, la technologie évoluera, évidemment, dans 10 ans, les technologies d'aujourd'hui de chiffrement de bout en bout ne seront peut-être plus vraiment solides, mais c'est le principe fondamental. Et là, le souci, c'est que ils disent « Ouais, mais non, il faudrait quand même pouvoir regarder les messages. » Et donc, là, il y a un souci, c'est qu'ils demandent une analyse avec des technologies qui n'existent pas. Et ils le savent, ils ont testé, ils ont reconnu qu'il n'y avait pas de technologie qui répondait à ça, mais ils vont devoir essayer de... Enfin, ils vont quand même... Ils ont passé ça dans la loi et ils vont essayer de s'en servir contre les plateformes éventuellement. Donc, il y a toutes les ONG qui hurlent à la mort, parce que, évidemment, là, c'est... Voilà, le FF dit que le Parlement britannique a porté atteinte à la vie privée, à la sécurité et à la liberté de tous les utilisateurs d'Internet. Donc, le but de ce projet de loi, hein, c'est de faire du Royaume-Uni l'endroit le plus sûr du monde pour être en ligne. Et donc, ils estiment qu'en fait, ça conduira à un Internet plus censuré, plus verrouillé pour les utilisateurs britanniques, avec des risques de censure politisée. Il y a tout qui est mauvais là-dedans. Le but du jeu, évidemment, derrière, c'est interdire le méchant anonymat en ligne, etc. Et pour rappel, ce que tout le monde dit, sur que ce soit en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou autre, à chaque fois que le sujet s'est abordé, le problème, c'est pas la technique, le problème, c'est le manque de moyens de la justice. C'est ce qui fait que l'anonymat, de toute façon, n'existe pas vraiment, à part avec certaines solutions où, effectivement, il peut être très compliqué de retrouver la trace, retrouver le nom de la personne. C'est quelqu'un qui passe par tort, ce genre de choses, ça devient compliqué de retrouver son identité. Mais si vous êtes sur votre téléphone ou que vous envoyez un message sous pseudonyme, on peut retrouver qui vous êtes relativement facilement à partir du moment où on a un mandat, où la justice est impliquée. Mais c'est plus facile de demander aux gens de créer des technologies miracles plutôt que de donner des sous à la justice. Bref. Du coup, le Royaume-Uni, ils ont réussi à faire fort. Mais nous, en France, on n'est quand même pas des mauvais. On a décidé d'aller très loin avec un projet de loi qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique. Donc le projet de loi SREN, donc qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Alors il a été voté en juillet au Sénat, hein, comme souvent. C'est en juillet et août, on s'amuse, on fait passer beaucoup de lois. Ils prétendent, enfin en tout cas ils présentent ça comme une adaptation de règlement européen, mais c'est une adaptation librement inspirée, je crois. On peut dire ça comme ça. Donc avec une censure extrajudiciaire et une volonté de mettre la fin à l'anonymat en ligne. Et ça reprend aussi pas mal des erreurs qui ont été commises par feu la loi Avia. Et donc, alors, il faudrait passer beaucoup de temps pour en parler. J'ai pas forcément assez de temps pour préparer un sujet complet là-dessus. On en reparlera, je pense, une prochaine fois, dans une prochaine émission. De toute façon, on verra. Je pense que ce projet de loi, on en reparlera à plusieurs reprises. Notamment, donc, ils veulent mettre fin à l'anonymat en utilisant comme prétexte l'accès à la pornographie en ligne. Donc, il y aurait censure judiciaire des sites... au lieu d'avoir une censure judiciaire des sites ne vérifiant pas l'âge des internautes, ça serait une censure administrative. Donc, c'est pas un juge qui va dire « Ok, là, vous respectez pas la loi, on vous coupe. » C'est « On va vous couper, et ensuite, un juge dira... Ouais, on avait le droit de vous couper. » Ce qui est déjà assez violent. Et surtout, donc, on le rappelle, il n'y a pas de possibilité technique de vérifier l'âge tout en respectant l'anonymat. Le Texas a été obligé de suspendre une loi de ce genre, une loi similaire à ça, parce que la justice américaine a considéré que c'était contraire à la liberté d'expression. Donc, dans le lot, le retour, comme ce qu'il y avait dans la loi via de la censure obligatoire en 24 heures... Des règles sur des bannissements de réseaux sociaux avec tout ce qu'il y a d'habituel. La petite nouveauté française, la censure administrative par le navigateur web. Ça va être compliqué celle-là à implémenter. Hein. C'est en gros, l'objectif serait d'imposer aux éditeurs de navigateurs web de se pouvoir censurer des sites sur demande policière. Attention, hein, demande policière. Techniquement, ça ne peut pas marcher dans un monde de logiciels libres. Donc, je demande à voir. Et à suivre ce magnifique projet de loi, je vous invite vraiment à vous regarder du côté de la Quadrature du Net. Ils ont des avis beaucoup plus détaillés que ce que je pourrais faire ici. Je ne vais pas tout vous lire. Et oui, il faudrait vraiment travailler le sujet pour pouvoir vous en faire une présentation radiophonique digne de ce nom. Mais c'est quand même du lourd. Donc, vraiment à suivre. Après, point positif, la Commission européenne a fait un petit rappel. Parce que, je ne sais plus si on en a parlé il y a deux semaines, il y a notre cher Manu National, qui souhaitait pouvoir bannir les cyberharceleurs sur les réseaux sociaux sans passer par la case juge. Voilà. Déjà, rien que le fait de dire ça, ça pose un gros problème. Et la Commission européenne a rappelé que... Non. Alors, ils ont dit non, on ne veut pas. Donc la Commission a dit, je cite, « La Commission est prête à mettre en œuvre des moyens coercitifs pour empêcher toute initiative nationale. Les États membres devraient s'abstenir d'adopter des législations nationales qui feraient double emploi avec ces règlements ou qui créeraient des dispositions plus strictes ou plus détaillées dans des domaines réglementaires concernés. » Donc, mal barré Manu, j'espère. Le Conseil constitutionnel dira sûrement aussi « Merde, c'est probable. Hein. » Et ça, c'est sur le projet de loi de bannissement des cyberharceleurs, ceci, cela. Il n'est pas impossible, du coup, que le projet de loi SREN se prenne aussi les pieds dans le tapis, méchamment, de la même façon. Mais donc ça, tout ça, c'est à suivre. On en parlera dans les prochaines émissions. On va pour l'instant écouter un premier morceau de musique, hein, après un bon premier pavé de brève. On va écouter... Alors, sélection de morceaux de musique au hasard dans les anciennes émissions, hein, parce que je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup mieux. On va écouter Let's Get Out de The Moose, toujours sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. A tout de suite.
You caught my eye like the brightest light, a twister in my mind. It's something new, it's something real that I never thought I'd find. It's like beauty's written across your face, or the beating of my heart. And it feels like everything's in place, like I found my missing part. Say the word, I'll be there for as long as we stay.
I take the fight.
C'était Let's Get Out de The Moose, toujours sur Radio Campus 106,6, la radio universitaire et campusville.com. Vous écoutez l'écho des clous. Et c'est la deuxième partie des actualités. Après avoir fait un bon gros pavé sur tout ce qui est Internet et vie privée, on va parler de logiciels pour une. Quand même un peu le principe de l'émission. Et on va commencer par un peu les sorties logicielles des dernières semaines. Alors, petite mise à jour du côté notamment de KDEN Live, le logiciel de montage vidéo, l'un des meilleurs logiciels de montage vidéo de libre sous Linux en tout cas. Donc avec surtout un ensemble de corrections de bugs. Donc n'hésitez pas si vous utilisez KDEN Live du coup à jeter un œil, toujours la peine. Donc c'est la version 23.08. Alors, une nouvelle version de GNOME qui est sortie. Alors, n'utilisant pas GNOME. Alors, petit rappel, GNOME, environnement de bureau de Linux, hein, l'un des deux principaux, il y a GNOME et KDE, grosso modo, aujourd'hui. Nouvelle version de GNOME, n'utilisant pas GNOME du tout, j'ai du mal à dire ce qu'il y a vraiment d'important dans cette nouvelle version, mais voilà. Amélioration de performance un peu partout, des corrections de bugs, un nouvel afficheur d'image, nouvelle application de gestion de la webcam, ce genre de choses, donc si vous utilisez GNOME, n'hésitez pas à regarder et puis du coup à vous renseigner sur comment votre distribution va se mettre à jour, notamment là les distributions de cet automne, donc celles qui sortiront à partir en général d'octobre. Ces distributions-là incluront quasiment certainement GNOME 45, donc notamment Fedora, la version 39 de Fedora. À propos de Fedora, un gros plan qui a été annoncé du côté de Fedora 40, donc la version qui devrait sortir l'année prochaine, donc en avril de l'année prochaine normalement, si tout va bien. Leur objectif est de ne plus diffuser de version X11 pour KDE et GNOME. Donc KDE et GNOME, les principaux environnements de bureau. X11, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire le rappel parce que ça va être nécessaire pour comprendre un peu une actualité après. Donc X11, c'est le système d'interface graphique traditionnel des plateformes Unix et Linux. X11, c'est quelque chose qui date des années... ça remonte à très loin, ça remonte aux années 80. Enfin, même début des années 80 plutôt que fin des années 80. Et donc c'est quelque chose qui est assez daté. Il y a énormément de choses dedans qui ne sont plus du tout d'actualité aujourd'hui et qui font que c'est quand même pas... On s'en accommode quand on s'en sert parce que on en a pris l'habitude, tout simplement. Mais c'est clairement pas la meilleure solution technique. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de compatibilité avec certains usages qui sont juste impossibles aujourd'hui, qui nécessiteraient des évolutions que personne ne veut faire. Il n'y a plus personne qui ne veut maintenir cette chose. C'est juste, plus personne ne veut le faire, c'est trop compliqué. Et donc, le remplacement de sous Linux qui a été décidé, plus ou moins, c'est Wayland. Alors, ça fait plus de 10 ans que c'est en développement, qu'il y a eu diverses choses. C'est pas du tout la même organisation, et du coup, c'est beaucoup plus de travail. Je dirais, malheureusement, sur certaines décisions, je trouve qu'ils sont allés trop loin dans la simplification, on va dire. Mais donc là, pour Fedora 40, ils ont décidé que, a priori, la transition sera faite. Les versions KDE et GNOME ne seront plus dépendantes de X11, mais uniquement de Wayland. À suivre. Mais du coup, une autre petite actualité qui, pour le coup, m'intéresse beaucoup par rapport à Wayland. Alors, elle est très technique, mais du coup, je vais vous l'expliquer. Au sein du projet Qt, j'expliquerai juste après ce que c'est, ils ont introduit une nouvelle fonctionnalité. C'est le transfert de compositeur Wayland. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce charabia ? Je sais que je vous ai donné la formation technique brute de fonderie. Il n'y a pas grand monde, même des gens techniques ne vont pas forcément comprendre de quoi ça cause. Et surtout, non plus, pourquoi j'en cause à la radio ? Le truc très technique comme ça, ça n'apporte rien à premier abord, mais en fait, quand on creuse un petit peu, il y a vraiment des fonctionnalités hyper intéressantes qui pourraient débarquer grâce à ça. Donc, déjà, Qt, qu'est-ce que c'est ? C'est l'un des principaux quadriciels, en bon français, pour aider au développement d'applications graphiques sous Linux. Donc tout le projet KDE, notamment, est codé avec ça. Et énormément d'applications le sont. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la fonctionnalité qu'ils ont mise en place, c'est que lorsque vous avez votre application graphique qui tourne, quel qu'elle soit, un éditeur de texte, un jeu, ils ont fait leur démonstration avec un démineur par exemple, votre application tourne. Mais le logiciel qui gère l'interface graphique, pour une raison quelconque, plante, ou ben vous le redémarrez, ou ben vous en lancez un autre à la place. Vous quittez K2 pour passer sur GNOME, ou ce genre de choses. Et bien, l'application va être capable de survivre à l'arrêt et au redémarrage du logiciel, donc du compositeur, ça s'appelle, et donc sera figé comme ça, comme si de rien n'était. Alors, c'est extrêmement pratique pour la résistance au crash, parce que moi, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui me freine énormément par rapport à Wayland, justement, c'est que par rapport à X11, la répartition des tâches n'est pas la même, et du coup, les composants les plus à même de planter ont beaucoup plus de rôle, et en cas de plantage, c'est beaucoup plus chiant. Donc j'avoue que moi, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir, rien que du point de vue de la stabilité, mais il y a vraiment un apport que moi je trouve fantastique, c'est une fonctionnalité que je ne connais pas, enfin qui n'a pas ma connaissance sur les systèmes grand public aujourd'hui, que ce soit sur Windows, sur macOS, ça va être la possibilité de faire la alors en anglais, Checkpoint Restore in User Space, donc retour à un point d'arrêt en espace utilisateur. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être la possibilité, alors, théorique et pratique, mais pratique uniquement avec de la ligne de commande pour l'instant, mais je pense que ça va être intégré, la possibilité, tout simplement, de mettre en pause, sauvegarder l'état d'une application. Elle est fermée, elle ne tourne plus, elle ne consomme plus de mémoire, elle est juste sauvegardée sur le disque. Et puis, lorsque vous voulez rouvrir l'application, hop, elle est restaurée depuis le disque, et remise dans son état tel quel. C'est l'application est mise en veille. Elle consomme plus rien, elle est plus là. Et quand elle se rouvre, pouf, elle se remet tout pile dans le bon état. La démonstration a été faite déjà, donc du coup, grâce à cette nouvelle fonctionnalité sur quelques applications, un éditeur d'image, un jeu, ce genre de choses. Et ça marche vraiment, c'est bluffant. Et alors, moi, ça fait des années que j'attends de voir ce genre de fonctionnalité parce que ce projet-là, il existait pour des applications texte, mais pas pour des applications graphiques, parce que ce n'était juste pas possible avec le fonctionnement de X11, mais avec Wayland, et du coup, avec cette nouvelle fonctionnalité, ça devient possible, et ça pourrait apporter des choses vraiment intéressantes. Vraiment très très intéressantes. On pourrait très bien avoir... KDE avait sorti la notion d'activité, où on passait d'activité en activité, mettons une machine à utilisation mixte, vous étiez sur votre activité de travail... Hop, fin de la journée, vous basculez sur l'activité perso ou jeu ou quoi que ce soit. Eh bien, vos applications de travail sont réellement fermées, mais en fait, en vrai, elles ont juste été archivées sur le disque dans leur état tel quel. Et lorsque vous rebasculez sur la session de travail, hop, et bien là, on les ressort du disque pour les remettre en mémoire et elles reviennent tout pile dans l'état dans lequel elles étaient. Si vous aviez des fichiers modifiés pas sauvegardés, c'est bon, ils reviennent tels qu'ils étaient avec les modifications. Si vous aviez quelque chose sur l'application, l'organisation complète des applications, la liste des fichiers ouverts, quoi que ce soit, tout était sauvegardé tel quel, sans même que l'application n'ait à le gérer. Donc c'est une fonctionnalité qui peut être fantastique, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va en être fait, parce que ça peut être vraiment extrêmement intéressant. Une dernière, alors pas vraiment logiciel, c'est pas une sortie de logiciel telle quelle celle-là, il y a eu une présentation il y a quelques semaines, non même pas cette semaine, à l'Open Source Summit de la Linux Foundation Europe. Et dans cette présentation, ils ont dit à quel point, alors Valve, l'éditeur de la plateforme de jeux vidéo Steam, à quel point Valve est un excellent contributeur à Linux et, alors ils disent à la communauté open source, terme que je déteste, mais bon, soit, au monde du logiciel libre, parce que Valve a fait une console de jeu avec Steam. Et pour la compatibilité Linux, déjà, ils ont contribué à tout un ensemble de pilotes, tout un ensemble d'éléments sur la pile graphique, etc. Ils ont contribué énormément à l'émulation Windows pour pouvoir lancer des jeux Windows sans modification. Ils ont contribué à KDE, parce qu'ils utilisent KDE pour leur interface graphique sur la console. Ils ont contribué au support de certaines fonctionnalités matérielles spécifiques que aucun développeur Linux n'avait commencé à gérer, parce que juste, je n'avais pas le besoin. Mais là, il y a un besoin par rapport aux jeux vidéo, donc il faut que ce soit supporté, et ils l'ont implémenté. Bref, ils ont fait un effort fantastique, et surtout, ils ont un principe fondamental, c'est de dire tout doit être envoyé upstream. On ne garde pas de patch pour nous, on ne garde pas de choses en interne. Si on a besoin de corriger quelque chose sur le noyau Linux, ça doit arriver dans le noyau Linux, on ne va pas le faire dans notre coin et puis attendre qu'un jour peut-être ça y soit intégré. Non, non, on l'intègre dès que possible. Et ça, ça en fait vraiment un excellent contributeur. Ils ont fait vraiment énormément de travail et ils continuent. Donc moi, pour le coup, bravo Valve d'avoir fait ça, même si ça m'embête de faire la promotion d'une entreprise qui fait du logiciel propriétaire, mais vu l'importance de leur contribution à du logiciel libre, on ne peut vraiment pas en dire du mal. Enfin, une dernière logiciel avant un deuxième morceau de musique, un peu moins positive celle-là, qui pose un peu problème. Alors, le noyau Linux évolue très régulièrement, très régulièrement. Il y a des nouvelles versions, je ne suis pas allé regarder, mais les dernières versions, elles sont sorties cette semaine, je crois. Et la prochaine version majeure sortira dans un mois, je crois. Il y a des versions majeures plusieurs fois par an. Le problème, c'est que pour suivre les mises à jour pour le matériel, c'est compliqué. Donc du coup, régulièrement, il y a des versions qui sont marquées en support long terme et elles sont supportées pendant 6 ans. 6 ans, ce qui permet à un fabricant de matériel de ne pas avoir à se prendre la tête en se disant « Ouais, mais comment je vais faire pour les mises à jour et tout ?» 6 ans, ça permet quand même d'être un peu plus serein, et pas devoir se dire « Je dois mettre à jour tous les 2 mois. » Le problème, c'est que là, les mainteneurs du noyau Linux ont annoncé qu'ils vont passer de 6 à 2 ans seulement le support à long terme. De 6 à 2 ans, c'est une grosse restriction, hein. C'est un gros frein. Mais du coup, pourquoi ? Et donc en fait, c'est simple, il y a 2 raisons. Alors la raison mineure, c'est que ils considèrent que il n'y a vraiment pas grand monde qui utilise les versions les plus anciennes dans l'eau. Notamment la version 4.14 qui est sortie, je ne sais plus, il y a 4 ans, je crois, ou 5 ans. Qui est sorti il y a 5 ans et demi. Ils considèrent qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui s'en sert. Il n'y a pas assez de gens pour le tester. Et du coup, il n'y a pas besoin de maintenir une version aussi longtemps. Et le deuxième point qui, lui, est beaucoup, beaucoup plus inquiétant, c'est tout simplement que il commence à y avoir tout simplement un phénomène de burn-out du côté des mainteneurs du code du noyau. Et là-dessus, je voudrais revenir sur une différence assez fondamentale. Et un gros, gros problème par rapport aux entreprises qui contribuent à Linux. Parce qu'aujourd'hui, Linux, il y a énormément de contributeurs qui font ça sur leur temps libre, mais aussi énormément de contributeurs d'entreprises. Ils sont beaucoup plus importants en termes de volume de contribution, ne serait-ce que parce qu'ils ont tout leur temps pour faire ça. Mais il y a deux rôles, en fait, dans Linux. Il y a les contributeurs, enfin les développeurs individuels, et les mainteneurs. C'est pas le même rôle. Les développeurs, aujourd'hui, c'est pas un problème. Les dernières versions de Linux, il y a plus de 2000 développeurs. À chaque version, il y a plus de 2000 développeurs. C'est pas un problème. Et les entreprises payent des développeurs. Il n'y a pas de souci. Par contre, les mainteneurs, c'est un autre problème. C'est vrai, et c'est un grave problème. Énormément de mainteneurs du noyau Linux ne sont pas rémunérés. S'ils font ça en plus de leur boulot à temps plein ou ce genre de choses. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Mais être mainteneur pour le noyau Linux uniquement, enfin pour le noyau Linux en cours, c'est déjà compliqué. Mais du coup, pour gérer par rapport à X anciennes versions à maintenir, le travail devient fou. Ils ont de plus en plus de demandes aussi parce que on trouve. Alors il y a des outils automatiques pour trouver des bugs dans le code, sauf que ça leur tombe dessus parce qu'ils doivent faire le tri, ils doivent essayer de voir ce qui est réellement important, ce qui doit vraiment être corrigé, etc. Ils réintègrent tous les développements, ils sont obligés de valider que tout s'intègre bien ensemble, etc. C'est pas anodin. Ils ont aussi un problème par rapport à l'évolution du noyau Linux lui-même. On en a parlé il y a quelques temps, il y a le langage de programmation Rust qui est introduit pour diverses raisons, je ne vais pas revenir dessus. Mais le problème, c'est que les mainteneurs vont se retrouver à devoir relire du code dans un langage qu'ils ne maîtrisent pas, et ils n'ont pas forcément le temps ou l'envie d'apprendre un nouveau langage de programmation. Donc on a un vrai problème là-dessus. Et le souci, c'est comment est-il possible aujourd'hui que des mainteneurs du noyau Linux soient non rémunérés? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je sais pas. Je comprends pas trop. Est-ce que les entreprises, du coup, sont à ce point obsédées par leur propre nombril que bah, on va contribuer au noyau Linux, mais uniquement pour envoyer le code qui nous intéresse. Et une fois qu'il sera envoyé, on s'en préoccupe plus. Hein, c'est bon, on s'en fout. Ce qui me semble extrêmement court-termiste comme choix. Mais il y a vraiment, vraiment des grosses interrogations par rapport à ça. Donc à suivre. Hein. En tout cas, ça a été annoncé. Ce sera fait. Mais on verra. Peut-être que les entreprises se bougeront pour, je sais pas, financer le développement du Linux et surtout la maintenance du Linux. À suivre. On va s'écouter un deuxième morceau de musique. On va s'écouter Preachers de BKs. Et on sera un tout petit peu d'actualité après, une petite dégeekisation. Mais donc pour l'instant, on va écouter Preachers de BKs, toujours les codes avec nous, sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. A tout de suite.
Pressures on us.
c'était Pressures de BKS, toujours sur Radio Campus, sur CGC, à numériqueterrestre.com, la radio numériqueterrestre et campusil.com. C'est toujours les collègues, nous, et on va se faire une dernière petite série d'actualités avant de se faire une petite dégicalisation. On va. Alors, famille des actualités, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle section. Parce que bon, il y en a quand même de plus en plus souvent. On va vous parler de la section amende. Parce que donc, en deux semaines, il y a déjà eu 900 millions de dollars d'amende en cumulé contre des grandes entreprises du numérique. On va faire le tour. Donc on en a eu trois qui sont tombées donc ces dernières semaines. Nous avons eu une première amende contre TikTok de la part de du Comité européen de la protection des données par l'intermédiaire de la CNIL irlandaise. Donc TikTok a été condamné à 345 millions d'euros d'amende pour notamment ne pas avoir assez protégé les mineurs, ne pas avoir protégé en particulier les mineurs de moins de 13 ans qui ne sont pas censés avoir le droit de créer un compte sur le réseau social, des problématiques notamment sur la liaison entre un compte adulte et un compte de mineur, qui permet en fait à des responsables légaux de prendre le contrôle sur certaines fonctionnalités du compte, etc., etc. Et donc, suite à tout ça, et notamment aussi l'utilisation de dark patterns par TikTok et vraiment le manque de contrôle vraiment de l'utilisation par les mineurs. Pour tout ça, donc ils ont été condamnés à 345 millions d'euros d'amende, TikTok affirmant être en désaccord avec les décisions, en particulier avec le niveau de l'amende. Évidemment, on les voit mal dire merci pour cette amende. Donc on verra comment ils répliquent, mais étant donné les infractions, ça peut être parfaitement justifié. Amende, c'est pas une amende celle-là, c'est un accord amiable, donc de 155 millions de dollars payés par Google aux États-Unis, en Californie, suite à une plainte pour la mauvaise explication de la part de Google, on va essayer de parler de rester poli, la mauvaise explication par Google sur l'utilisation de la géolocalisation et l'utilisation de ces données sans l'accord des utilisateurs. Donc, ils ont été accusés de cibler les gens et de profiler et de cibler les gens avec des publicités, même lorsque l'historique de localisation était désactivée, et de faire croire aux gens qu'ils pouvaient débloquer des publicités alors que certaines publicités ne pouvaient pas l'être. Donc là, Google a accepté de payer un certain montant, donc 155 millions de dollars, pour que, grosso modo, ça se ferme. Ce qui m'attriste en fait avec ce genre de fonctionnement, c'est que du coup, ils vont pas être condamnés à arrêter ces pratiques-là et rien ne va être fait pour vraiment les contraindre à ne plus jamais le faire, malheureusement. Et enfin, alors celle-là, c'est une vieille affaire. C'est une affaire qui date quand même d'il y a 20 ans, il y a 15 à 20 ans. C'est une période ça concerne une période qui date de 2002 à 2007. Intel a été condamné à 376 millions d'euros d'amende, 400 millions de dollars, pour manœuvre anticoncurrentielle sur le marché des microprocesseurs, notamment le fait d'avoir payé des entreprises, notamment Intel a payé Acer, HP, pour qu'ils ne sortent pas d'ordinateurs avec des processeurs AMD ou qu'ils les retardent de plusieurs mois pour leur sortie sur le marché. Donc notamment, Intel a aussi payé Lenovo pour retarder certaines sorties d'ordinateurs portables de 6 mois. Ce qui est assez conséquent et du coup gênant pour ce type de matériel, puisque en 6 mois, un matériel qui était top du top, etc., donc qui était vendu aussi avec un premium, donc avec une plus forte valeur ajoutée, enfin une plus forte marge surtout pour le fondeur du processeur, en 6 mois, ça perd déjà de son intérêt. Du coup, ces manœuvres quelque peu limites ont été enfin sanctionnées. Donc la première sanction était tombée en 2009, mais il y a eu discussion, négociation, et la sanction son montant a diminué, Mais voilà, il était temps que Intel soit condamné pour ses pratiques. Et alors, ça, fin des amendes, et je voudrais juste vous faire une dernière toute petite actualité. C'est un petit rappel qui est toujours bon d'avoir. Il y a des études qui sont sorties qui estiment que l'utilisation d'eau de la part de Google et Microsoft notamment a explosé. Elle a été augmentée de 20 à 30%. Et ils estiment que c'est largement à cause de tout le travail autour de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a des estimations, hein, tout le monde a entendu parler de ChatGPT, je crois, maintenant. Pour 5 à 50 échanges sur ChatGPT, il faut un demi-litre d'eau. Je le répète, 5 à 50 échanges sur ChatGPT, enfin, vraiment, vous vous posez 50 questions, c'est un demi-litre d'eau qui a été consommé. Le cloud, le nuage, l'informatique est dématérialisé, ça n'existe pas. L'informatique, c'est du matériel. L'électronique, par effet joule, ça chauffe, donc il faut retirer la chaleur, donc il faut plein de flotte. Parce qu'on n'a pas beaucoup plus efficace que la flotte pour retirer la chaleur. Du coup, quand on sort des ChatGPT ou autres qui ne servent à rien à part faire de la démonstration technologique pour vendre derrière d'autres produits, on consomme, pour le fun, plein de ressources. Mais non, c'est dans le cloud, vous ne les voyez pas les ressources, donc c'est pas très grave. C'est aussi pour ça, quand on dit « oui, il faut dématérialiser, plus utiliser de papier », ce genre de choses, si c'est pour à la place dépendre de ce genre de solutions techniques, le gain n'est pas très évident. Parce que la consommation de flotte, notamment, et d'électricité pour le... Ah oui, parce que un demi-litre d'eau, ça veut dire que derrière, il y a eu besoin, il y a une certaine chaleur à dissiper. Qui dit chaleur à dissiper, dit chaleur qui a été produite, donc électricité consommée. Donc CO2. Je trouve ça un peu con à dire, hein, mais c'est un petit rappel indispensable. Bon, et vu l'heure, on va pas se réécouter un morceau de musique avant, on va faire la déquicalisation. Alors, je suis embêté d'être un peu tout seul, parce que moi, je mets des blagues, des jeux de mots dans les titres et tout, donc y a personne pour me les dire pour moi. Donc, je vais me dédoubler un petit peu. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous avons parlé aujourd'hui des aventuriers des Arches Perdues. Alors, petit jeu de mots gratuit, hein, c'est cadeau. Les architectures perdues, de quoi qu'on va causer ? En fait, c'est un peu de la même façon que des gens cherchent notamment à conserver des avions, des voitures. Je parle pas de collection personnelle, hein, je parle vraiment de conservation du point de vue historique. Garder l'histoire de ce qui a été fait. Et dans le monde de l'informatique, ce travail est également très important. Parce que il y a eu toute une période extrêmement foisonnante, des années 70 aux années 90 grosso modo. Ça s'est malheureusement pas mal tari ces derniers temps. Il y a beaucoup moins de choses autour de ça aujourd'hui. Mais il y a eu énormément de choses qui ont été annoncées, sorties, développées, des trucs qui ont été réfléchis, qui étaient extrêmement avant-gardiste, qui même encore aujourd'hui, quand on prend le matériel qui a été conçu, certaines des idées sont encore largement dans le temps d'aujourd'hui. Ils étaient tellement avant-gardistes il y a 30 ans qu'aujourd'hui encore, ils font pas le figure. Alors certes, le matériel est daté, mais si on refabriquait le même matériel avec des procédés récents, on aurait des machines extrêmement bonnes, mais qui, pour diverses raisons, politiques, économiques, des mauvaises stratégies d'entreprise ou autres, ces choses ont disparu. Donc là, on va parler des architectures d'ordinateurs. Le PC, alors plutôt plus particulièrement, pardon, des architectures de processeurs. Donc le PC tel qu'on le connaît est basé sur des processeurs Intel. Alors, la décision, c'était parce que c'était moins cher. Grosso modo, hein, je résume. Donc Intel x86, alors il y a toute une évolution hein, là-dedans, c'est long, ça a été loin d'être... les processeurs qu'on a aujourd'hui sont quand même très éloignés des processeurs qu'on avait à l'époque, mais ils parlent toujours la même langue, et donc un programme qui a été écrit grosso modo en 85, vous le prenez, vous mettez un système d'exploitation sur, qui est compatible avec ce programme-là sur votre ordinateur d'aujourd'hui. Déjà, vous allez trouver des systèmes d'exploitation compatibles, quasiment, c'est quasiment certain. Et votre programme de l'époque marchera parce que juste le processeur parle toujours la même langue. On peut se dire, ouais, c'est tant mieux. Tant mieux pour la compatibilité, c'est bien. Sauf que, en fait, ça en devient un carcan. Ça en devient un poids, ça en devient une limite. Et donc, quand on regarde tout ce qui s'était fait ailleurs dans les autres systèmes de l'époque, eh bien, on trouve des tas de bonnes idées qui, alors certaines ont fini par arriver dans nos processeurs modernes, d'autres, elles sont passées à la trappe, on les a oubliées, et on n'en reparlera plus, ou des expériences qui n'ont pas abouti, ou ce genre de choses. Alors, des processeurs antiques, il y en a plein. Donc, il y a eu toute la famille des Motorola 68000. Alors, eux, ils sont pas très connus en France pour l'informatique personnelle parce que, finalement, l'informatique personnelle en France, on a connu beaucoup plus les PC. Alors, je connais pas beaucoup de gens qui se souviennent des Amiga, des Sinclair, des Atari ST, Alors, c'est la Mega Drive qui utilisait ce processeur-là, certains des premiers Macintosh, mais on est vraiment sur des très vieilles machines. Donc c'est qui date des années 80, tout début des années 90. Donc ça c'est la famille des Motorola 68000 qui avait des avantages notamment d'être assez simple à programmer, relativement hein, pour un développeur, qui était extrêmement répandu, mais Motorola n'a pas fait le poids face au mammouth qui a été le PC, l'IBM PC, avec les processeurs x86, malheureusement. Donc, grosso modo, le développement a été arrêté vers 1994. Pour se concentrer, il y a eu une fusion du travail avec notamment IBM et Apple pour fonder les processeurs PowerPC. On a eu aussi Alpha, donc c'est des machines qui étaient phénoménales, qui étaient largement en avance sur leur temps. Et elles ont disparu parce que accord économique avec Microsoft. Voilà. Et donc l'entreprise qui les a créées a été réintégrée au sein de Microsoft, grosso modo. Et puis voilà, ça a disparu et c'est bon, on n'en parle plus. Ils ont tout vendu la propriété intellectuelle à Intel. Donc ça a disparu comme ça, sans qu'on ait finalement vraiment pu en profiter pleinement. C'est extrêmement dommage parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Il y a les processeurs ARM qu'on retrouve sur les téléphones portables, etc. Et tout ce monde-là, il faut comprendre qu'il y a besoin de le préserver. Et aujourd'hui, c'est pas des choses qui sont vraiment préservées dans énormément de musées. Il y a 2-3 musées dans le monde qui cherchent vraiment à préserver ça, mais sinon, c'est énormément de particuliers qui cherchent sur eBay des pièces pour faire vivre ces machines-là, pour essayer de les faire avancer. Et là où c'est encore plus important, c'est que ces machines-là, il faut réussir à les faire vivre, à en faire des choses, entre guillemets, utiles. Et c'est là que vient le logiciel libre, puisque aujourd'hui, il n'y a qu'avec le logiciel libre qu'on peut encore faire fonctionner ces vieilles machines. On est tout pile pour la fin de l'émission. En parlant tout seul, du coup, on ne voit pas forcément le calendrier, enfin l'horloge, je suis désolé pour cette fin brutale un petit peu. Donc c'était le 258e numéro de l'Econéounou, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Normalement, on se retrouve dans 3 semaines avec Alexandre. Ça va être plus pratique quand même de ne pas être tout seul parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci de m'avoir écouté du coup. On se retrouve donc, comme je disais, dans 2 semaines pour l'émission numéro 259. Et vous avez rendez-vous tout de suite avec Chupa Pimento. Bonne soirée à vous, bye bye.
Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des glous.